Après s'être dégourdi l'esprit pendant les soirées passées chez d'Arthez, Lucien avait étudié les plaisanteries et les articles des petits journaux. Sûr d'être au moins l'égal des plus spirituels rédacteurs, il s'essaya secrètement à cette gymnastique de la pensée et sortit un matin avec la triomphante idée d'aller demander du service à quelques colonels de ses troupes légères de la presse. Il se mit dans sa tenue la plus distinguée et passa les ponts en pensant que des auteurs, des journalistes, des écrivains, enfin ses frères futurs, auraient un peu plus de tendresse et de désintéressement que les deux genres de libraires contre lesquels s'étaient heurtées ses espérances. Il en rencontrerait des sympathies, quelques bonnes et douces affections comme celles qu'il trouvait au cénacle de la rue des Quatre-Vents. En proie aux émotions du pressentiment écouté, combattu, qu'aiment tant les hommes d'imagination, il arriva à rue Saint-Fiacre, auprès du boulevard Montmartre, devant la maison où se trouvaient les bureaux du petit journal, et dont l'aspect lui fit éprouver les palpitations du jeune homme entrant dans un mauvais lieu. Néanmoins, il monta dans les bureaux situés à l'entresol. Dans la première pièce que divisait en deux parties égales une cloison moitié en planche et moitié grillagée jusqu'au plafond, il trouva un invalide manchot qui, de son unique main, tenait plusieurs rames de papier sur la tête et avait entre ses dents le livret voulu par l'administration du timbre. Ce pauvre homme, dont la figure était d'un ton jaune et semée de bulbes rouges, ce qui lui valait le surnom de coloquinte, lui montra derrière le grillage le cerbère du journal. Ce personnage était un vieil officier décoré, le nez enveloppé de moustaches grises, un bonnet de soie noire sur la tête et enseveli dans une ample redingote bleue comme une tortue sous sa carapace. « De quel jour, monsieur, veut-il que parte son abonnement ?» lui demanda l'officier de l'Empire. « Je ne viens pas pour un abonnement, » répondit Lucien. Le poète regarda sur la porte qui correspondait à celle par laquelle il était entré. La pancarte où se lisaient ces mots, bureau de rédaction, et au-dessous, le public n'entre pas ici. Une réclamation, sans doute, reprit le soldat de Napoléon. Ah oui, nous avons été durs pour Mariette. Que voulez-vous? Je ne sais pas encore le pourquoi. Mais si vous demandez raison, je suis prêt, ajouta-t-il en regardant des fleurets et des pistolets, la panoplie moderne groupée en faisceau dans un coin. Encore moins, monsieur. Je viens pour parler au rédacteur en chef. Il n'y a jamais personne ici avant 4 heures. Voyez-vous, mon vieux Giraudeau, je trouve 11 colonnes, lesquelles, sans sous-pièces, sont 55 francs. J'en ai reçu 40, donc vous me devez encore 15 francs, comme je vous le disais. Ces paroles partaient d'une petite figure chafouine, claire comme un blanc d'œuf mal cuit, percée de deux yeux d'un bleu tendre, mais effrayant de malice, et qui appartenait à un jeune homme mince, caché derrière le corps opaque de l'ancien militaire. Cette voix glaça Lucien. Elle tenait du miaulement des chats et de l'étouffement asthmatique de l'hyène. Oui, mon petit milicien, répondit l'officier en retraite, mais vous comptez les titres et les blancs. J'ai ordre de Finot d'additionner le total des lignes et de les diviser par le nombre voulu pour chaque colonne. Après avoir pratiqué cette opération strangulatoire sur votre rédaction, il s'y trouve 3 colonnes de moins. Il ne paye pas les blancs, l'arabe, et il compte à son associé dans le prix de sa rédaction en masse. Je vais aller voir Étienne Lousteau. Vers nous? Je ne puis enfreindre la consigne, mon petit, dit l'officier. Comment, pour 15 francs, vous criez contre votre nourrice? Vous qui faites des articles aussi facilement que je fume un cigare? Eh, vous paierez un bol de punch de moins à vos amis, ou vous gagnerez une partie de billard de plus et tout sera dit. Finot réalise des économies qui lui coûteront bien cher, répondit le rédacteur qui se leva et partit. Ne dirait-on pas qu'il est Voltaire et Rousseau? Se dit à lui-même le caissier en regardant le poète de province. Monsieur, reprit Lucien, je reviendrai vers 4 heures. Pendant la discussion, Lucien avait vu sur les murs les portraits de Benjamin Constant, du général Foy, des 17 orateurs illustres du Parti libéral, mêlés à des caricatures contre le gouvernement. Il avait surtout regardé la porte du sanctuaire où devait s'élaborer la feuille spirituelle qu'il amusait tous les jours, et qui jouissait du droit de ridiculiser les rois et les événements les plus graves, afin de mettre tout en question par un bon mot. Il alla flâner sur les boulevards, plaisir tout nouveau pour lui, mais si attrayant qu'il vit les aiguilles des pendules chez les horlogers sur 4 heures, sans s'apercevoir qu'il n'avait pas déjeuné. Le poète rabattit promptement vers la rue Saint-Fiacre. Il monta l'escalier, ouvrit la porte, ne trouva plus le vieux militaire. Et Villavalide, assis sur son papier timbré, mangeant une croûte de pain et gardant le poste d'un air résigné, fait au journal comme jadis à la corvée, et ne le comprenant pas plus qu'il ne connaissait le pourquoi des marches rapides ordonnées par l'empereur. Lucien conçut la pensée hardie de tromper ce redoutable fonctionnaire. Il passa le chapeau sur la tête et ouvrit, comme s'il était de la maison, la porte du sanctuaire. Le bureau de rédaction offrit à ses regards avides une table ronde, couverte d'un tapis vert, et 6 chaises en merisier garnies de paille encore neuve. Le petit carreau de cette pièce, mis en couleur, n'avait pas encore été frotté, mais il était propre, ce qui annonçait une fréquentation publique assez rare. Sur la cheminée, une glace, une pendule d'épicier couverte de poussière, 2 flambeaux où 2 chandelles avaient été brutalement fichées, enfin, des cartes de visite éparses. Sur la table, grimaçaient de vieux journaux autour d'un encrier où l'encre séchée ressemblait à de la laque et décorée de plumes tortillées en soleil. Il lut sur de méchants bouts de papier quelques articles d'une écriture illusible et presque hiéroglyphique, déchirés en haut par les compositeurs de l'imprimerie à qui cette marque sert à reconnaître les articles faits. Puis, ça et là, sur des papiers gris, il admira des caricatures dessinées assez spirituellement par des gens qui, sans doute, avaient tâché de tuer le temps en tuant quelque chose pour s'entretenir la main. Sur le petit papier de tenture couleur vert d'eau, il vit, collé avec des épingles, 9 dessins différents faits en charge à la plume sur le solitaire, livre qu'un succès inouï recommandait alors en Europe et qui devait fatiguer les journalistes. Le solitaire en province paraissant, les femmes étonnent. Dans un château, le solitaire lut. Effet du solitaire sur les domestiques animaux. Chez les sauvages, le solitaire expliquait le plus succès brillant obtient. Le solitaire, traduit en chinois, est présenté par l'auteur de Pékin à l'empereur. Par le mot sauvage, Élodie violée. Cette caricature sembla très impudique à Lucien, mais elle le fit rire. Par les journaux, le solitaire sous un dé promené processionnellement. Le solitaire faisant éclater une presse, les ours blessent. Lui à l'envers étonne le solitaire, les académiciens par des supérieurs beautés. Lucien aperçut sur une bande de journal un dessin représentant un rédacteur qui tendait son chapeau et dessous « Finot, mais 100 francs !» signé d'un nom devenu fameux mais qui ne sera jamais illustre. Entre la cheminée et la croisée se trouvait une table à secrétaire, un fauteuil d'acajou, un panier à papier et un tapis oblong appelé devant de cheminée. Le tout couvert d'une épaisse couche de poussière. Les fenêtres n'avaient que de petits rideaux. Sur le haut de ce secrétaire, il y avait environ 20 ouvrages déposés pendant la journée. Des gravures, de la musique, des tabatières à la charte, un exemplaire de la 9e édition du solitaire, toujours la grande plaisanterie du moment, et une dizaine de lettres cachetées. Quand Lucien eut inventorié cet étrange mobilier, il fit des réflexions à perte de vue, que 5 heures eurent sonné, il revint à la valide pour le questionner. Coloquinte avait fini sa croûte et attendait avec la patience du factionnaire le militaire décoré qui peut-être se promenait sur le boulevard. En ce moment, une femme parut sur le seuil de la porte, après avoir fait entendre le murmure de sa robe dans l'escalier et ce léger pas féminin si facile à reconnaître. Elle était assez jolie.